c'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, les élections pourront-elles avoir lieu prochainement au Burkina Faso? Un chef Touareg lié à Acmi comparaît devant la CPI pour la destruction des mausolées de Tombouctou. Le Niger tente de combattre le trafic d'êtres humains. Rubrique éducation, les difficultés de la rentrée scolaire au Togo. Voici tous les sujets que nous allons développer aujourd'hui dans Sahel Plus. Restez avec nous. Retour sur la crise au Burkina Faso. La situation semble peu à peu rentrer dans l'ordre depuis que l'armée loyaliste a repris le contrôle après son assaut éclair contre la caserne des ex-putschistes de la garde présidentielle. Mais va-t-on pouvoir organiser des élections présidentielles dans les prochaines semaines? L'analyse du fondateur de Wati, un think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest. Nous écoutons Gilles Yabi.
Dans quelques semaines, devrait pouvoir suffire à créer les conditions pour cette élection. Je crois qu'à nouveau, il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la préparation technique et de ce qui est de l'ordre du contexte dans lequel les élections ont prévu de se tenir. Et je crois que les électeurs burkinabés à nouveau ont montré jusque-là une grande capacité de dialogue et de résolution de leurs propres problèmes. Et je crois que s'ils ont le soutien non ambigu des acteurs régionaux et internationaux, ils auront la capacité d'organiser des élections assez rapidement.
Crisis Group s'était positionné et d'autres observateurs également, disant qu'il fallait peut-être relancer l'inclusion des membres de l'ancien parti de Blaise Compaoré, hormis forcément ce coup d'État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut relancer cette discussion d'après vous?
Au Burkina Faso, les acteurs de la transition ont été très conciliants et on n'a pas exclu le CDP, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. On les a autorisés à présenter des candidats. On a simplement introduit dans le code électoral une position qui interdisait à ceux qui avaient pris position clairement pour un projet de révision constitutionnelle. Je crois qu'ils auraient pu faire un choix d'inclusion, ils n'auraient pas eu de problème, mais ils ont fait un choix inverse et je pense qu'il faut respecter des organes de transition qui décident de traduire dans un code électoral le message d'une révolution.
Quel avenir pour un profil comme celui du général Diendéré? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser à une amnestie ou est-ce qu'il a été trop loin?
Et je pense que la discussion sur l'amnestie au moment même où la crise n'était pas réglée, alors qu'il y a au moins 10 morts à nouveau liés directement à ce coup d'État, je trouve que cette discussion était déplacée et assez indécente. Le général Diendéré est quelqu'un tout de même que les Burkinabés connaissent bien. Il a été impliqué dans tous les épisodes les plus sombres du régime de Blaise Compaoré. Et je crois que cette tendance aussi à personnaliser et à penser que parce qu'il a été un pilier du système de sécurité au Burkina Faso, il serait absolument incontournable, etc. Je crois que cela conduit à ne pas respecter les institutions, ce qui rend beaucoup plus important que les personnalités qui, à un moment donné, les incarnent. Je crois que dans le cas du général Diendéré, il est allé très loin, il est allé trop loin, il savait parfaitement ce qu'il faisait, ce n'est pas du tout un personnage qui a pu donner un coup sans y avoir pensé, sans l'avoir planifié. C'est quelqu'un de très calme, de très posé. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une nécessité de donner un symbole fort qui est important pour le Burkina, mais pour l'ensemble de la région. On ne peut pas tout accepter, on ne peut pas, après un tel coup de force, tout de suite parler d'amnestie. Il y a des choses dont il aura à répondre devant la justice. Je pense que c'est seulement comme ça qu'on va construire petit à petit les fondements de démocratie qui soient stables et qui soient ancrés dans une certaine justice.
Gilles Yabi, fondateur de Wati, un think tank citoyen pour l'Afrique de l'Ouest. Il répondait aux questions de Tatiana Mosso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Direction La Haye, à présent aux Pays-Bas, où Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, surnommé Abu Tourab, a comparu mercredi devant la Cour pénale internationale. Chef Touareg d'un groupe islamiste malien lié à Al-Qaïda, Ahmed Al-Faqi est soupçonné d'avoir dirigé la destruction en 2012 de mausolées à Tombouctou. De Gao, notre correspondant Boubacar Touré, nous brosse son portrait.
Ahmed Al-Faqi Al-Hamdi, de son nom de guerrier Abu Tourab, est né à Agoun, à 100 km de Tombouctou. C'est un Touareg de la tribu Ansar Touareg. Il a été une personnalité très active dans le contexte de l'occupation de la ville de Tombouctou. Il était jusqu'en septembre 2012 à la tête de Sahba, c'est-à-dire la brigade des mœurs, à partir de mai 2012 déjà membre du tribunal islamique de Tombouctou, et c'est lui qui exécutait les décisions. Il a participé activement à la destruction des bâtiments faisant l'objet de poursuites au niveau de la CPI. On peut citer entre autres le mausolée Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aki ou le mausolée Ahmed Foulan et la mosquée Sidi Yahya. Ahmed El-Aki El-Hamdi, dit Abu Tourab, est la première personnalité à répondre devant la CPI dans le contexte de l'enquête sur la situation au Mali. Plusieurs autres personnes qui se sont distinguées dans la destruction des mausolées et dans les amputations au moment de l'occupation des régions du nord du Mali, attendent à leur tour de répondre de leurs actes devant le procureur de la Cour pénale internationale. Gao Boubacar Touré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Et nous restons au Mali pour évoquer sa coopération militaire avec les États-Unis. 20 marines ont effectué un exercice cette semaine à Bamako avec des éléments du 33e régiment des parachutistes maliens, communément appelé au Mali les Bérets Rouges. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Terrain d'exercice du 33e régiment des parachutistes maliens à Bamako, les officiels sont accueillis par le lieutenant-colonel Douglas Brock, attaché de défense de l'ambassade des États-Unis au Mali et le commandant du 33e régiment des parachutistes maliens.
Les marines sont ici pour la formation avec FAMA. La coopération est très bonne. La formation est l'exemple pour notre programme entre notre pays.
Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Youssouf Traoré. Je commande le 33e régiment des commandos parachutistes. L'exercice auquel vous allez assister va consister à l'intervention sur différents cas de blessures. Blessure à la jambe, blessure à la poitrine, blessure au bras.
L'exercice d'entraînement spécial vise à améliorer la capacité collective à fournir des services de secours en cas de catastrophe et d'urgence médicale.
My name is Major Roy Dre.
Mon nom est Major Ray Dre, assistant opérateur pour les marines qui sont basés en Espagne. Nous sommes une force de réponse en cas de crise, ce qui veut dire que s'il y a des urgences en Afrique, nous pouvons apporter amener les marines pour aider le pays. Cette même unité a aidé il n'y a pas très longtemps dans le cas du virus Ebola Libéria. Notre mission est d'assister et en cas de catastrophe et en cas de sécurité également d'intervenir.
C'est à bord de deux avions que les 20 marines sont arrivés à Bamako en provenance de Dakar. Ils ont embarqué une partie des officiels de la cérémonie du jour pour survoler le ciel bamakois en 20 minutes. Le ministre de la promotion des investissements du Mali représentait le gouvernement malien.
Je me dis, ça participe vraiment dans le processus de reconstruction de notre armée, qui est le souhait de notre peuple. Dire que nous avons aux États-Unis d'Amérique des alliés sûrs sur lesquels nous pouvons compter. C'est une technologie de dernière génération et les hélicos à la même temps qui sont aussi des avions. Dans des circonstances particulières, c'est une solution qui peut s'avérer assez efficace, notamment en situation de détresse, lorsque vous avez une catastrophe ou une situation où vous devez venir en aide à des populations en danger.
Paul Wolfs, l'ambassadeur des États-Unis au Mali était aussi de la partie.
Nous avons utilisé deux avions qui s'appellent Osprey et les Osprey sont spécialistes pour aider dans les catastrophes naturelles. Cet avion peut voler comme un avion mais atterrir comme un hélicoptère.
Les États-Unis faisaient des exercices de ce genre au Mali, mais c'est avec le coup d'État du 22 mars 2012 qu'il y a eu un arrêt. On peut dire que c'est parti pour une reprise de partenariat militaire entre Maliens et Américains. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Niger a à célébrer lundi 28 septembre la journée nationale de mobilisation en faveur de la lutte contre la traite des personnes. Elle a été instituée en 2012 par les autorités de ce pays pour marquer leur engagement à combattre ce fléau mondial qui le touche particulièrement. Le pays a d'ailleurs récemment renforcé sa législation en matière de lutte contre toutes les formes de traite, y incluant le trafic des migrants. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Mour Amadou, ministre nigérien de la Justice.
L'institution de cette journée par le gouvernement vise à rappeler à la conscience de tous et de chacun que malgré les mesures prises, les initiatives développées pour combattre la traite des personnes, l'inconscience des uns, la vénalité des autres poussent de nombreuses personnes à vouloir s'approprier leurs semblables à des fins d'exploitation de toutes sortes. En organisant la présente journée, le gouvernement a voulu que l'attention commune se focalise précisément sur tous ces enfants et ces jeunes dont les chances de fréquenter l'école ainsi que l'avenir sont compromis par la méchanceté des uns et l'inaction de tous les autres.
Depuis quelques années, le trafic des migrants est apparu avec les importants flux migratoires vers l'Europe comme une nouvelle forme de traite des personnes. Il était toutefois difficile de le réprimer, l'infraction n'étant pas prévue dans les textes de loi. C'est pourquoi les autorités nigériennes ont, en début d'année, revu la loi nigérienne qui criminalise la traite des personnes pour y inclure cette nouvelle forme de traite. Madame Goje Memuna Gazibo est la directrice de l'Agence nigérienne de lutte contre la traite des personnes.
Au Niger, on a plus de problèmes liés au trafic illicite de migrants que la traite des personnes. Et la loi sur la traite des personnes n'est pas une loi adaptée pour poursuivre les passeurs. C'est des gens qui exploitent des migrants, mais des migrants consentants. Et on a vu beaucoup de délinquants, beaucoup de trafiquants qu'on a pu appréhender, mais on n'avait pas la loi adéquate pour les poursuivre et les maintenir en prison. Or, la présente loi, elle est tellement dure pour les trafiquants parce que les peines vont de 1 an d'emprisonnement à 30 ans d'emprisonnement. Nous avons prévu des amendes allant de 3 millions à 30 millions. Toutes les personnes qui se rendent complices du trafic illicite de migrants, qui organisent le trafic, nous leur réservons la confiscation des bus, des fortes amendes, des fortes peines d'emprisonnement. Même tenter de faire passer un citoyen nigérien illégalement dans un autre pays, la loi réprime ça. C'est comme si vous avez déjà commis l'acte lui-même.
L'édition 2015 de la journée de mobilisation en faveur de lutte contre la traite des personnes au Niger est placée sous le thème de la scolarisation des jeunes filles en milieu rural. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Éducation pour finir l'émission au Togo, c'est parti pour l'année scolaire 2015-2016. Après 2 mois de vacances, élèves et enseignants reprennent le chemin des classes pour les 9 prochains mois. Une rentrée scolaire sous fond d'inquiétude du côté des enseignants comme des parents d'élèves, nous dit de Lomé notre correspondante Kaïl Osson.
C'est ce lundi 28 septembre que les élèves togolais entament l'année scolaire 2015-2016. Il y a quelques jours, des rumeurs faisaient état d'un report de la rentrée compte tenu des exigences non satisfaites du corps enseignant. Après des discussions avec les syndicats, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, de la formation technique et professionnelle, Komi Tchakpele, annonce que la rentrée est maintenue au 28 septembre.
La rentrée scolaire 2015-2016 aura bien lieu le 28 septembre. S'agissant du paiement des primes de rentrée de bibliothèque, nous sommes engagés auprès de nos collègues enseignants pour œuvrer inlassablement de façon à ce que ces primes soient payées dans les meilleurs délais.
Même si les syndicats affirment que c'est dans la sérénité que les enseignants débutent l'année scolaire 2015-2016, des inquiétudes subsistent. Kalaha Soja, porte-parole des fédérations de l'éducation du Togo.
Nous entamons cette rentrée scolaire avec bonne foi. Seulement, nous avons entre-temps posé des doléances. Notre doléance urgente, c'est que le gouvernement nous paie les primes de rentrée de bibliothèque. À 112 heures de la rentrée, les primes ne sont pas encore versées. Mais le gouvernement a promis de le faire dans un meilleur délai. Meilleur délai, c'est quand? Donc, les camarades s'inquiètent sur le terrain. Mais nous espérons que dans les prochaines heures, quelque chose sera fait.
Inquiétude également du côté des parents d'élèves qui espère une année scolaire non mouvementée Edo Komi-Misebukpo, président de l'Union des associations des parents d'élèves des écoles publiques du Togo.
Les parents sont toujours inquiets quand s'approche la rentrée, parce que depuis 3 ans déjà, nos rentrées ont toujours été tumultueuses. Nos souhaits, c'est d'avoir une année sereine, comme par le passé. Une année sans perturbation du tout, sans grève. Et nous, les parents, nous implorons le gouvernement à se mettre à l'écoute des syndicalistes afin que le problème soit réglé en amont pour que nous retrouvions une éducation de qualité pour nos enfants.
Pour une éducation de qualité, les enseignants estiment que leurs conditions doivent être revues. Une plateforme revendicative en 6 points a été posée sur la table du gouvernement togolais. Nous retrouvons Kalaha Sodja.
Toute la fédération soumise au gouvernement 6 doléances. La première doléance, c'est d'élargir le paiement des primes de rentrée de bibliothèque aux enseignants des confessionnels. La deuxième doléance, c'est de relever la prime d'incitation à la fonction enseignante. Ensuite, troisième doléance, paiement des primes de rentrée de bibliothèque. Il y a le problème du statut particulier de l'enseignement. Il y a le problème des enseignants volontaires. Leurs salaires jusqu'ici ne sont pas encore payés. Et le problème de la coopérative.
Ils sont plus de 2 millions d'élèves inscrits pour le compte de l'année scolaire 2015-2016 au Togo. On se souvient que les 3 dernières années scolaires ont été marquées par des grèves des enseignants pendant des semaines. Des mouvements de débrayage qui ont poussé des élèves dans la rue pour réclamer une éducation de qualité. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Josel Morissin. À la console, Mireille Dubinsky et Alfredo Santos. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, sur VOA Afrique. D'ici là, retrouvez-nous sur Twitter et Facebook, VOA Sahel Plus. Nous nous quittons en musique avec le groupe soudanais Al Sahra et leur titre Wad Al Nouba. Al Sahra and the Nubatones seront en concert à Santa Barbara le 16 octobre prochain au Centre Multiculturel de l'Université de Californie. Bonne soirée et bonne nuit à tous.